23h minuit. Toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Le Tour de France qui donc fait escale ce soir pour la dernière soirée en Corse. Les coureurs ont d'ailleurs décollé il y a quelques instants, décollé de Calvi direction la Côte d'Azur direction Nice où la course se poursuivra demain avec le premier grand rendez-vous chronométrique de ce Tour de France, un contre-la-montre par équipe dans les rues de Nice sur la promenade des Anglais. En attendant, tiens, on va se remettre dans l'ambiance du direct, c'était tout à l'heure, les derniers kilomètres de cette course.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.
Pierre Roland qui en rajoute une petite couche, Fred, et qui va tenter de passer en tête au col de Marcelino.
En force, Pierre Roland, le coureur orléanais de l'équipe Europcar qui avait terminé meilleur jeune du Tour de France et qui, cette fois, aujourd'hui, sous le soleil corse, est vêtu de cuissards et maillot blanc à pois rouge et qui va aller conserver, à la surprise générale, après que les échappés aient franchi trois difficultés au cours de la journée, il va aller décrocher de précieux points dans ce col de deuxième catégorie. Pierre Roland qui la joue fine et qui n'a pas menti hier en déclarant que ce maillot de meilleur grimpeur le faisait rêver quand il était môme. Eh bien, il poursuit son rêve, Pierre Roland. Il est seul en tête avec quelques longueurs d'avance sur un coureur de l'équipe Euskaltel. Il compte 23 secondes d'avance sur le peloton, un peloton à l'avant duquel on trouve tous les favoris à 14 km de l'arrivée.
On va retrouver la moto RMC. Georges Quirino est-il au contact de Pierre Roland? Est-ce que tu vois les poids qui arrivent?
Effectivement, on voit les poids qui arrivent, les poids de Pierre Roland qui est poursuivi par ce coureur de l'équipe Euskaltel juste derrière lui. Il se retourne, le français de l'équipe Europcar qui pour l'instant est assis sur son vélo. Il n'est pas en danseuse et il lui reste encore un lacé à en franchir. Et ensuite, cette longue ligne droite où il va voir énormément de supporters sur la gauche et la droite de la route. D'ailleurs, des supporters qui traversent n'importe comment actuellement devant nous. Et Pierre Roland qui relance et qui regarde derrière lui pour essayer de passer au sommet de ce col de Marcelino.
Et on se rapproche du col, Fred. Encore un kilomètre, un peu plus d'un kilomètre. Il y a une nouvelle tentative en tête de peloton.
Oui, c'est un coureur de l'équipe Belkin. Alors, ex-Blanco, ex-Rabobank. Belkin, qui est un sponsor qui a eu du nez en reprenant cette équipe vierge de sponsors à la veille du Tour de France. Ils ont posé leur nom sur un tout nouveau maillot vert. C'est un coureur qui tente de partir en contre-attaque derrière Pierre Roland. Effectivement, Pierre Roland qui était accompagné par le Basque Mikel Nieve et qui, à une centaine de mètres du sommet du passage au col de Marcelino, compte 26 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Il passe à l'instant.
C'est pas mal, hein, quand même.
Il passe à l'instant et ne se relève pas. Bonne information. Si, temps de roue libre pour Pierre Roland au sommet. Derrière, on aperçoit les coureurs de l'équipe Lotto avec Jürgen Vandenbroek. Attention, un leader pour le classement général qui tente de fausser compagnie à l'avant du peloton.
Dommage, Lucho, de se relever. Non, c'est un peu dommage. Il avait 25 secondes d'avance au col.
Il peut tenter. C'est pas les 10 km restants qui vont lui faire du mal pour les prochaines étapes, et je pense que Pierre Roland devrait continuer son effort, d'autant plus que Vandenbroek a attaqué derrière et qu'il peut éventuellement revenir sur Pierre Roland et avoir du renfort. Il reste maintenant 13 km. Pierre Roland qui fait la descente quand même assez vite, assez rapide, et en plus bon, c'est une descente très sinueuse, c'est à l'avantage aussi d'un coureur seul.
Il insiste
et peut-être que Vandenbroek va pouvoir revenir sur lui, et ça serait bien d'avoir un renfort pour le final.
Vandenbroek absorbé par l'avant-garde du peloton. Il a tenté trop tard, le Belge, leader de l'équipe Lotto. A priori, Pierre Roland va devoir tenter de filer seul vers l'aéroport de Calvi, longer cette longue plaine en direction de la ligne d'arrivée. Il reste 12 km et Pierre Roland compte 16 petites secondes d'avance sur le peloton.
Cyril, c'est vrai que le final n'est pas vraiment propice à un homme seul. Hein. Il y avait que les seules lignes droites de la journée, ce sera dans le final tout à l'heure.
Oui, bien sûr, puisque le parcours va longer l'aéroport. Un aéroport, par définition, c'est sur du plat.
Ah bah oui, s'il y avait des villes.
S'il était, puis, comme il le longe, eh bien, la ligne droite fait rien de moins que 3 km. Donc il aura beaucoup de mal à résister au peloton, alors qu'il y a déjà là deux contre-attaquants, mais il n'y a qu'une vingtaine de secondes. On a pu voir qu'il restait quand même quelques sprinters dans ce peloton, dont bien sûr le sprinter grimpeur-rouleur Peter Sagan.
Et Sylvain Chavanel, me semble-t-il, Fred.
Oui, descendeur. descendeur devant l'éternel, excellent descendeur qui a une année de plus depuis hier, lui qui a fêté ses 34 ans avec une déception, échappé dans le final déjà en direction d'Ajaccio il y a 24 heures. Il retente sa chance. La descente n'est pourtant peut-être pas assez technique, pas assez sinueuse, mais là il prend tous les risques avec son beau vélo orange fluo à la couleur de sa voiture de sport, le cadeau de l'équipe Omega Pharma Quickstep. Son nouveau vélo orange est en train de prendre quelques longueurs d'avance au peloton, tandis que Pierre Roland compte toujours une vingtaine de secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Sylvain Chavanel compte lui 50 mètres d'avance. Chavanel dans une position aérodynamique qu'il affectionne. Full gas, comme
il donne des frissons à Lucho, hein, quand tu le vois descendre comme ça.
À un moment donné,
ça fout
virage,
c'est pas Lucho qui descend là.
Oui, bon, bien sûr, oui, mais enfin bon,
il descendait
pas trop mal, mais pas comme Sylvain Chavanel.
Numéro d'équilibriste pour Sylvain Chavanel, toute dents dehors et qui prend de l'angle à la manière des pilotes moto dans les nombreux virages de la descente du col de Marcelino. Sylvain Chavanel à la poursuite de Pierre Roland. Les Français sont à l'avant et encore de l'Europe Car en tête de la course. On est à 9 km 500 de l'arrivée et Pierre Roland, les mains en bas du guidon, dans un style très fluide, tente de conserver l'avance, une avance qui fond tout doucement, 15 secondes d'avance pour le leader de l'équipe Europe Car sur le groupe maillot jaune.
Et si Sylvain Chavanel, Cyril, parvient à rattraper Pierre Roland, peuvent-ils collaborer les deux hommes? On sait que Chavanel a été un ancien coureur de Jean-René Bernodeau, hein.
Oui, c'est évident que si Chavanel est sorti derrière Pierre Roland, lorsqu'ils vont se regrouper, ils vont collaborer tous les deux. Ils ont d'ailleurs intérêt, sinon ils vont être rejoints dans les hectomètres suivants.
Ouais, merci pour cette réponse. La moto RMC, est-ce qu'elle voit quelque chose? Donc je crois qu'elle a été obligée de dégager, Georges, parce que là, évidemment, la bagarre dans les derniers kilomètres de cette étape, est-ce que tu vois quelque chose? Non, il est parti.
Non, évidemment, on a basculé dans la descente. Donc là, c'est très compliqué d'apercevoir Pierre Roland et ses trois poursuivants. On est désormais dans une longue ligne droite juste après cette descente. Donc Pierre Roland qui va se retourner et il va certainement voir les trois contre-attaquants qui pourront l'apercevoir juste derrière lui et le peloton en ligne de mire.
Voilà, parce qu'ils ne sont plus. Il n'y a pas seulement Sylvain Chavanel, ils sont trois derrière Pierre Roland désormais.
Oui, derrière Pierre Roland, on l'avait dit dans le final du col de Marcelino, il y avait le Basque Mikel Nieve qui avait attaqué en compagnie notamment d'un coureur de l'équipe Belkin. Ce coureur, c'est le Norvégien Lars-Peter Nordhaug. Mais le numéro que réalise actuellement Sylvain Chavanel pour revenir sur Pierre Roland est impressionnant. Chavanel qui rentre à l'instant sur le porteur du maillot à pois orléanais. Deux Français à l'avant de la course, Chavanel et Roland. Chavanel qui a déposé Nordhaug et Mikel Nieve à la pédale en bas de la descente. 2+2, deux coureurs en tête plus deux contre-attaquants. Et le groupe maillot jaune à une quinzaine de secondes. Deux Français, Chavanel et Roland, comptent quelques longueurs d'avance sur le Basque Nieve et le Norvégien Nordhaug. On est à nouveau sur des parties planes en direction de Calvi. Il reste 8 km et les deux Français, Chavanel et Roland, se relaient parfaitement.
Cyril, nos deux Français ont-ils une chance d'aller au bout de cette étape là avec ces longues lignes droites et quasiment plus que 9 secondes d'avance, hein?
Oui, ils sont en train de se regrouper à 4. On va voir comment ils vont collaborer, mais derrière on s'aperçoit que l'équipe Orica Green Edge a tout simplement pris la tête des opérations et à mon avis ça n'est pas par hasard. Leur sprinter a dû passer sans encombre l'ascension.
Et oui, on va essayer de faire le décompte tout à l'heure des sprinters qui sont restés dans ce gros paquet, dans ce groupe maillot jaune, mais en tous les cas c'est vrai que ça file très vite. Lucho, tu y crois pour Chavanel, Roland et leurs deux compagnons d'échappée?
Non, c'est pas évident, hein, parce que l'équipe Orica Green Edge est en train de relancer derrière le peloton. En plus ils vont avoir le renfort de l'équipe de Peter Sagan, hein, l'équipe Likougas. Donc ça sera quand même très difficile pour Sylvain Chavanel, d'autant plus que Sylvain prend beaucoup plus de relais appuyés que ses principaux concurrents. Donc je vois mal comment, en plus il y a beaucoup de lignes droites, hein, avec des vents défavorables, ça sera difficile. Avec 8 secondes d'avance maintenant, ça sera vraiment dur pour eux,
hein. Voilà. Les Cannondale ont repris la tête du peloton, les ex-Likouigas en effet, les coéquipiers de Peter Sagan, qui ramènent le peloton à 8 secondes seulement du quatuor de tête, un quatuor, on vous le rappelle, composé de deux Français, Pierre Roland, maillot à pois, et qui le restera ce soir ici à Calvi. Sylvain Chavanel, déçu, grand déçu d'hier en direction d'Ajaccio, qui tente une deuxième carte sur ce début de Tour de France. Il y a également le Basque Mikel Nieve et son maillot orange de la formation Euskaltel, et puis un coureur de l'équipe hollandaise Belkin, l'ancienne Rabobank. Il s'agit du Norvégien Lars-Peter Nordhaug, quatre coureurs qui s'entendent relativement bien et qui résistent pour l'instant à 6 km de l'arrivée dans les plaines en direction de Calvi, 6 km de la ligne et 10 secondes d'avance sur un peloton qui les garde véritablement à portée de fusil. L'avant du peloton toujours emmené par les Cannondale de Peter Sagan et les Orica Green Edge de Matthew Goss, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, ou de son équipier australien Simon Gerrans.
Voilà, Pierre Roland, leader de la formation Europcar, est en tête de cette course, et son lieutenant, plutôt son capitaine de route, Thomas Vauclair, lui, se trouve à l'arrière. Ça énerve Lucho de voir Thomas. Mais comme ça, il prend moins de risques, non, en se retrouvant derrière le
oui,
peloton.
Oui, si, il prend moins de risques. Il prend le risque surtout de prendre des chutes. Dans un final, il faut toujours rester dans les 15-20 premiers, ne pas traîner derrière le peloton.
Oui, mais on a vu l'autre jour
même si
c'est
le peloton est réduit de plus de la moitié, il n'empêche qu'une chute est vite arrivée dans le final parce que ça frotte beaucoup. Et voilà, donc il faut quand même se méfier pour Thomas Vauclair, qu'il ne perde pas de temps par rapport à tout ça.
C'est un débat qu'on pourra reprendre ultérieurement, parce que Thomas Vauclair ne tombe quand même pas souvent. Hein, en de ouais. nombreuses années de professionnalisme, il arrive quand même à voir clair dans la course. 5 km de l'arrivée, toujours 4 hommes en tête et un homme qui montre les dents à sa manière. Le coureur originaire de Châtellerault, ancien champion de France de la course en ligne, champion de France en titre du contre-la-montre, c'est évidemment Sylvain Chavanel, qui a déjà remporté des étapes sur le Tour de France, mais qui cette année reste sur une déception. C'était il y a 24 heures en direction d'Ajaccio. Il en avait fait beaucoup à l'avant dans le final de l'étape et avait permis quelque part à Jan Bakelands de remporter l'étape, lui qui avait été avalé par le peloton. Le seul Belge de l'équipe Radio-Shack avait réussi à résister au retour du peloton. Déçu Chavanel, mais revanchard aujourd'hui Chavanel, qui incite ses compagnons d'échappée, à savoir Pierre Roland le français, Mikel Nieve et Lars-Peter Nordhaug, un Norvégien, à le relayer. Mais c'est encore bien lui, Chavanel, dit Mimosa dans le peloton.
Bon, il faut plus l'appeler comme ça, paraît-il.
Qui en fait le plus. On est à un peu plus de 4 km de l'arrivée et contre à l'instant, ça ne roule pas assez vite. Il va nous faire la même chose. Lars-Peter Nordhaug, le coureur norvégien de l'équipe Belkin, va tenter de faire la même chose que Jan Bakelands hier. Cette fois, Sylvain Chavanel est à l'affût et le saute dans la roue du coureur norvégien. Ça ne s'entend plus à moins de 4 km de l'arrivée.
Moins de 4 km de l'arrivée, et toujours ces longues lignes droites. Peu d'avance pour Chavanel et ses trois compagnons d'échappée, parmi lesquels on retrouve évidemment Pierre Roland, le porteur du maillot à pois rouge de meilleur grimpeur et qui va conserver ce soir ce maillot. Derrière, évidemment, le peloton maillot jaune est en position de recherche d'échappée, de lutte contre l'échappée, et on commence à se placer chez les sprinteurs.
Avec un peloton qui, à l'instant, absorbe les échappées, dont le dernier escapé, Pierre Roland, maillot, cuissard, casque à pois, vient de se faire avaler par l'avant-garde du peloton, un peloton emmené par les Radio-Shack du maillot jaune, Jan Bakelands. Bakelands qui n'est plus dans les toutes premières positions, mais un que l'on voit dans les toutes premières positions, c'est Andy Schleck, le leader de l'équipe Radio-Shack, le luxembourgeois, vainqueur du Tour de France sur tapis vert en 2010, emmené par son coéquipier Markel Irizar. Andy Schleck qui semble retrouver des jambes sur ce début de Tour de France. 3 km de l'arrivée, peloton groupé.
Peloton groupé, on va donc essayer, Cyril. Je ne sais pas si tu as pu repérer quels étaient les sprinteurs et les hommes les plus rapides au sein de ce groupe, car désormais c'est quasiment une certitude. Cette troisième étape s'achèvera au sprint dans quelques instants, Cyril.
Bien, vraisemblablement, nous avons Matthew Goss, nous avons Peter Sagan, il doit y avoir Chimolai également. Dogan Kolb a été lâché, Kittel a été lâché. Boigny a été lâché, Christophe était tout à l'heure en difficulté, Greipel, je ne pense pas qu'il est passé.
Non, Greipel largué, tout comme Mark Cavendish évidemment.
Voilà. Donc je pense que nous avons Matthew Goss, Peter Sagan, et que les choses vont tourner autour de ces deux hommes. Et puis j'ai presque
attention, une attaque Fred.
Attaque en tête de course d'un coureur de l'équipe Argos, coéquipier de Marcel Kittel et de John Degenkolb. Ces deux sprinteurs qui sont largués à cause du final très pentu avec le col de Marcelino, un coureur qui ressemble à Lauren Stendam, un longiligne coureur de l'équipe Argos à moins de 2 km de l'arrivée. On va tâcher d'identifier ce coureur de la formation néerlandaise. Derrière, les Radio Shack sont en train de lutter pour conserver le maillot jaune au sein de l'équipe. Yann Bakelants, le maillot jaune, est toujours dans ce groupe de favoris qui compte environ 80 unités.
Le dernier kilomètre est donc un seul homme en tête du Moulin qui tente de résister au peloton qui revient lancer avec les grosses cuisses qui se mettent en position, Fred.
Attention, ce n'est pas Samuel Dumoulin, le Français. Non. Ce n'est pas du tout le même gabarit. Le coureur hollandais Tom Dumoulin, coureur de l'équipe Argo Shimano, qui, selon toute vraisemblance, va être avalé dans les prochaines dizaines de mètres par un peloton lancé à sa chasse. Les Cannondale de Peter Sagan sont à l'avant et avalent à l'instant pour le dernier virage, un 90 degrés en direction de la ligne d'arrivée, à un peu plus de 600 mètres maintenant de la ligne. Peter Sagan en deuxième position derrière un coéquipier. On aperçoit également les Orica Greenwich qui placent sur la droite de la route Simon Gerrans, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo, également présent. Peter Sagan particulièrement bien placé. On aperçoit également José Joaquín Rojas, sprint lancé à 200 mètres par Simon Gerrans, le sprinter australien de l'équipe Orica Greenwich, débordé sur la gauche de la route par monsieur Hulk, Peter Sagan et Simon Gerrans qui terminent exactement sur la même ligne, et aucun entre Gerrans et Sagan n'ose lever les bras, n'ose manifester la moindre joie. Il faudra attendre la photo finish pour déterminer le vainqueur de cette troisième étape. La victoire se jouera pour quelques millimètres entre Simon Gerrans, l'Australien de l'équipe Orica Greenwich, et Peter Sagan de l'équipe Cannondale. Gerrans qui, pour un boyau, disons-le, Simon Gerrans qui vient remporter la deuxième étape du Tour de France de sa carrière, lui qui s'était imposé déjà lors d'une étape dans les Alpes, c'était en Italie, si mes souvenirs sont bons. Simon Gerrans, coureur passe-partout, coureur capable de régler des pelotons en arrivée en petit comité, mais là il restait tout de même encore 80 coureurs. Simon Gerrans qui devance donc sur le fil, après avoir été doublé par Peter Sagan, il est revenu, il a produit un double effort en fait. Simon Gerrans qui devance Peter Sagan et José Joaquín Rojas,
Pierre,
l'Espagnol.
Pierre-Yves Leroux avec Sylvain Chavanel.
Que de subir derrière. Juste pour demain, pour le contre-la-montre par équipe.
Bon, c'est pas parce que vous faites du travail pendant 5 bornes que ça va laisser des forces. Je suis pas là pour classement général. Donc moi, j'ai pas à calculer.
Vous avez des bonnes jambes, Sylvain, là.
Sylvain qui est en train de boire un coup après le passage de la ligne. On va essayer de le suivre.
Et on rappelle la victoire de Simon Gerrans, l'Australien installé à Monaco, coureur de l'équipe Orica Greenwich. Et bien l'équipe Orica se sera mise en évidence tout au long de la journée avec la fuite en avant de Simon Clark, qui a longtemps animé l'échappée matinale.
Et il est passé plus vite sur la ligne que son bus, en tous les cas, Gerrans.
Oui, Gerrans qui devance pour un boyau donc Peter Sagan, le maillot vert du dernier Tour de France. Sagan qui va peut-être du coup endosser le maillot de leader du classement par points ce soir. Maigre consolation pour celui qui avait remporté 3 étapes sur le Tour de France l'an passé, Peter Sagan, qui est un animateur de la vie du peloton et qui ne s'est pas mis assez en évidence aujourd'hui, devancé d'un boyau par Simon Gerrans, un Gerrans l'Australien, 2 Sagan le Slovaque et 3 Rojas le sprinter espagnol de l'équipe Movistar.
Ouais Cyril, il est parti Gerrans, c'est vrai que Peter Sagan vient mourir sur la ligne derrière Gerrans. Mais il lui manque un tout petit quelque chose là sur ce coup-là.
Oui, mais Gerrans a surtout fait un sprint très intelligent, un sprint de pistard, puisqu'il avait son équipier qui l'emmenait. Et aux 250 mètres, il s'est laissé décrocher. Il a perdu 2 longueurs sur son équipier qui l'emmenait pour prendre sa vitesse, pour lancer son sprint, de prendre l'aspiration pour prendre un maximum de vitesse au moment où il allait déboîter. Peter Sagan, à partir de ce moment-là, ne pouvait plus le remonter. Ouais, il pouvait revenir à un quart de roue, mais il pouvait pas le sauter.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour, Christophe Cessieux.
Dernière étape corse avant le retour sur le continent. Les coureurs du Tour de France qui ont décollé il y a une grosse demi-heure maintenant, qui sont en route vers Nice où ils vont dormir ce soir avant le contre-la-montre de demain, contre-la-montre par équipe dont on parlera tout à l'heure avec Cyril, avec Luc et avec Thierry Bourguignon qui nous a rejoint également. Il est avec nous. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
On est ravis d'accueillir Bourgui avec nous évidemment. Juste avant d'aborder notre deuxième débat, la question, est-ce que tu as été déçu par le côté sportif de cette course en Corse? Est-ce que tu attendais plus de choses, Thierry?
Vous l'avez dit déjà dans le débat, on s'attend tellement à de belles choses pour une étape comme ça que ben, forcément on est déçu, on attend peut-être trop, surtout d'une étape de début de tour comme ça. Les gens sont craintifs, les attaques sont comptées, ça monte au train, donc il y a un maximum de coureurs qui peuvent suivre et je pense qu'ils ont peur de la suite.
Ouais, ils ont peur de la suite, ils ont raison d'avoir peur de la suite, car il va se passer, on l'espère, beaucoup de choses avant l'arrivée sur les Champs-Élysées dans un petit peu moins de 3 semaines maintenant. Alors on va s'intéresser aux Français qui se sont mis en évidence aujourd'hui, notamment Sylvain Chavanel et Pierre Roland. Pierre Roland, en allant chercher les points du classement de la montagne, puisqu'il est ce soir une nouvelle fois le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Pierre Roland qui a semblé à l'aise dans la dernière petite ascension de la journée. Alors on se posait la question tout à l'heure dans le direct, Cyril, de savoir si Pierre Roland devait se réserver pour essayer de décrocher ce maillot de meilleur grimpeur du Tour de France, ou s'il devait abandonner ce maillot pour se concentrer sur le général. Et toi, tu nous disais, et je pense que tu vas le confirmer, tu nous disais qu'il le ferait mieux de se concentrer sur le maillot à poids, parce que pour le général, tu le trouves un peu juste, notamment en ce qui concerne les contre-la-montre. Mais quand même, ce serait dommage d'abandonner toute ambition générale après 3 jours de course, alors qu'il semble bien.
Oui, mais attendez, il y a 2 choses. Il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce que l'on annonce en termes d'objectifs, on essaye toujours plus ou moins de brouiller les pistes. Et c'est vrai que Pierre Roland ne peut pas partir avec l'ambition, si on fait preuve de bon sens et d'objectivité, en disant « je pars sur le tour et je veux faire sur le podium ». Pour pouvoir être sur le podium, il faut des qualités que Pierre Roland n'a pas. Il en a d'autres, heureusement. Il n'a pas suffisamment de puissance contre la montre. Son niveau de performance contre la montre est trop faible. Et jusqu'à maintenant, à moins qu'il nous fasse mentir sur ce tour, mais il perd en moyenne 1 minute par tranche de 10 km. Donc ça veut dire que lorsqu'on va avoir fini le dernier contre-la-montre, eh bien, il aura tout simplement déjà un débours de 5 minutes, auquel il faudra peut-être en ajouter une ou une et demie dans le contre-la-montre par équipe. Donc, on ne peut pas partir sur cet objectif-là, donc ne plus faire le classement de la montagne, donc ne plus se battre pour passer les côtes ou les cols en tête, mais uniquement essayer de suivre les grands leaders et d'attaquer dans la dernière ascension pour aller prendre du temps à des adversaires, ou du moins pour reprendre du temps à des adversaires à qui il en aura pris.
Il termine 8e du Tour de France l'an dernier.
8e et 10e du Tour de France, à combien au classement général et à combien il termine du 3e?
Alors il termine, l'année dernière, il est à 16 minutes effectivement.
Bah oui, 16 minutes. Oui.
Et il est à 10 minutes de Vincenzo Nibali.
Voilà. Bon.
Mais
Christophe, vous venez de donner la réponse.
Ouais. Donc il peut éventuellement gagner encore 4-5 minutes, mais pas plus. C'est-à-dire le mettrait éventuellement dans le top 5. Le top 5, c'était Van Garderen, il était à 11 minutes. Donc 4 minutes de mieux que Pierre Roland. Ouais. Mais il peut pas faire plus.
Non.
Tu penses qu'il peut pas faire plus?
Non, ça n'est pas possible, sauf s'il part dans une échappée un petit
au
peu à la Vauclair.
Oui, mais on va pas le laisser partir, lui.
Bon, il a déjà le classement de la montagne sur les épaules. C'est quand même un garçon qu'on laisse pas obligatoirement partir comme ça sans s'en occuper. Donc on va faire du tempo derrière. Les équipes de leaders savent le faire.
Ouais.
Donc l'objectif qu'il peut avoir sur ce Tour de France, c'est victoire d'étape. Et maillot à poids.
Lucho, est-ce que tu confirmes toi aussi?
Oui, ben oui.
Pas d'ambition pour le général, ce serait dommage.
Non, mais comment veux-tu qu'il y ait une ambition pour le classement général pour Pierre Roland? Mais on n'est pas défaitiste, on est réaliste. Tu regardes un petit peu, comme disait Cyril tout à l'heure, regarde le classement général de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Pierre Roland, il n'a pas progressé en l'espace de 2-3 ans dans le contre-la-montre. Comment veux-tu qu'il fasse dans les 5 premiers du Tour de France? Quand tu es confronté à des coureurs comme Froome, comme Contador, à la limite il est kiff-kiff avec Andy Schleck qui vise le classement général. Mais tu ne peux pas rivaliser comme ça sur un Tour de France de 3 semaines en ayant une grosse perte au niveau du contre-la-montre dans cette discipline-là. Pour gagner le Tour, tu dois être bon partout. Et le problème de Pierre Roland, c'est qu'il est bon certainement dans les cols, un petit peu moins bon quand il s'agit de se placer dans les premières arrivées, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de se placer et il a un manque peut-être de concentration, mais c'est surtout le contre-la-montre individuel ouais. où il prêche énormément. Et puis il faut rajouter une chose, le contre-la-montre par équipe avec Europcar, ils vont perdre du temps par rapport à la Sky et aux autres formations.
Donc déjà ça veut dire que demain soir il peut déjà
mais
se dire
il commence le tour avec un débours de au moins 7 minutes
ouais.
Quand tu comptes tous les trois chronos qu'il y a, il compte au moins au début de tour 7 minutes de retard déjà avant le premier jour.
C'était le même problème avec Richard Virenque.
Ouais.
Richard Virenque perdait autant de temps que Pierre Roland. Bon, sauf que il arrivait à faire des raids dans une grande étape de montagne. Vous aviez 5 ou 6 cols parce qu'il avait des capacités, une très grande capacité d'endurance. Et il marquait ses points sur une étape et après il assurait son classement de la montagne. Mais en faisant ça, on vient dans le classement général. On vient entre 5 et 10.
Ouais. Mais pas
au-delà.
Mais pas dans le top 5.
Mais je pense que le fait de dire qu'il fait le classement général, c'était quand même pour brouiller les pistes.
Très bien. Thierry, rapidement, ton avis sur Pierre Roland. Toi aussi, tu penses comme tes collègues qu'il faut qu'il se réserve pour le maillot à poids, pour le général. C'est d'ores et déjà rappelé, c'est pas la peine d'espérer.
Ah, je vais pas être sympa, je vais penser comme mes deux collègues.
Bon, on va passer à Sylvain Chavanel. Tiens, on va d'abord prendre Guillaume qui nous appelle au 32-16 pour nous parler des Français, de Pierre Roland d'un côté et de Sylvain Chavanel de l'autre côté. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous, comment ça va?
Salut ça Guillaume. Ça va plutôt pas mal Guillaume. Enfin moi, ils m'ont cassé le moral là quand même. Hein, de nous dire que Pierre Roland n'avait aucune chance de faire un top 5, voire monter sur le podium. Là, franchement, moi je suis complètement désabusé. Hein.
Déjà, je voudrais passer un petit mot à Siri que j'écoute religieusement sur Sport Plus à la télé.
Merci mon fils.
Il faut l'écouter surtout sur RMC, hein, Sport
voilà,
Plus, on s'en fiche.
Et sur RMC aussi, mais pendant l'année aussi à la télé. Oui, après, bon, Pierre Roland, je suis malheureusement d'accord. Je pense qu'on en fait un petit peu trop sur lui. Le problème, c'est que Pierre Roland, à la régulière, ne peut pas atteindre un top 5. Quand devant lui, il peut avoir un Froome, un Contador, un Vanguard Rennes, dont il faudra faire beaucoup d'attention cette année, parce que pour moi, c'est pas Cadel Evans, le leader de la BMC. Voilà, Roland, à la régulière, il ne peut pas accrocher un top 5. Il va falloir qu'il fasse quelques raids. Le maillot à poids, c'est bien pour lui parce que il montre le sponsor Europcar qui recherche toujours un copartenaire. C'est une équipe de D2, ce n'est pas
voir
une équipe
un sponsor
de
principal, hein, puisque Europcar n'a pas encore confirmé qu'il continuerait.
Voilà, c'est une équipe de D2, ce n'est pas une équipe de D1, il faut bien rappeler. Pierre Roland n'a pas les capacités de rouleur. C'est d'ailleurs ce qui a manqué à Thomas Vauclair en 2011.
Ouais.
Donc voilà, si on pouvait avoir un combiné Pierre Roland, Sylvain Chavanel sur un coureur, franchement, ça serait le top pour la France.
Eh oui, ce serait pas mal, avec un mélange, non, Roland pour les capacités dans la montagne, Vauclair pour son intelligence en course, et Chavanel pour sa puissance.
C'est ça.
Avec
c'est
ça, pas. On aurait le prochain vainqueur voilà. français du Tour de France. Et malheureusement, on n'est pas assez calé en génétique.
On
n'est pas assez calé en génétique pour faire ça, à moins de leur faire un petit à tous les trois. On va essayer de se débrouiller. Merci Guillaume en tous les cas pour cet avis.
Merci mon fils.
Avis unanime.
Le
donc
héros,
Pierre Roland.
Il a pas trouvé son successeur encore.
Ah non, malheureusement. Ah, peut-être on aura un débat sur Thibaut Pinot dans quelques jours. Sylvain Chavanel, justement, venons-en à lui. Sylvain Chavanel, qui une nouvelle fois aujourd'hui a tenté le show. Il a tenté dans la descente, il a montré qu'il était vraiment très très fort, mais une nouvelle fois il s'est raté. Alors est-ce qu'il a eu raison d'attaquer? Est-ce que c'était pas suicidaire d'attaquer si près de l'arrivée dans ces circonstances?
Et comme il dit, il faut bien attaquer à un moment ou un autre, hein. Si on se cache derrière la forêt, on n'y arrivera jamais. Mais bon, le problème de Sylvain, c'est que bon, il attaquait dans la descente et qu'il restait encore quand même une dizaine de kilomètres et qu'il y avait un petit vent défavorable et que le peloton est en bas de la descente était quand même qu'à 10 secondes, donc c'était pas suffisant pour Sylvain. Bon, il a tenté, comme hier. Mais le problème, c'est qu'il valait mieux rester au chaud aujourd'hui et regarder un petit peu le profil des prochaines étapes pour essayer de tenter quelque chose. Je pense qu'il y a l'étape Aix-en-Provence.
Mais il s'est pas vraiment grillé aujourd'hui. Mais est-ce qu'il s'est grillé aujourd'hui? Demain, il y a le contre-la-montre par équipe. Il va devoir peut-être un peu appuyer.
Mais c'est pour ça qu'il faut compter ses forces. Et puis, vu que hier, il a quand même eu un gros échec, pourquoi retenter aujourd'hui?
Enfin, on était en train de dire tout à l'heure qu'il fallait qu'il se passe des choses.
Oui,
et là, quand Sylvain Chavanel attaque, on est en train de le critiquer.
On le critique pas. Je je dis simplement que Sylvain, s'il veut gagner des étapes, c'était peut-être pas le profil aujourd'hui adéquat à ses capacités. Mmh. Tu regardes les prochaines étapes, par exemple Montpellier-Albi, peut-être que là, ça, c'est une étape qui sera dans ses capacités.
Et pourquoi c'était pas dans ses capacités aujourd'hui?
Mais parce que c'était trop, il y avait
ça tournait trop, ça donnait mal au cœur.
C'est pas ça, c'est que ça tournait pas trop, mais le final était trop roulant et pas propice aux attaques pour Sylvain Chavanel, c'est tout.
Cyril, rapidement.
Moi, je pense que Chavanel, qui est un superbe coureur, est un coureur qui ne sait pas gagner, un petit peu à l'image d'un Zoutemelk ou d'un Raymond Poulidor.
Soit il en a gagné des belles quand même, Cyril, tu es un peu injuste.
Non, mais Poulidor et Zoutemelk aussi. Hein.
Oui.
Mais quand vous regardez le nombre de places de deuxième et quand vous analysez pourquoi ils n'ont pas plus de victoires, Chavanel, il lui manque le tout petit truc pour avoir un palmarès absolument fabuleux.
Mais tu regardes Cyril, je te coupe, mais tu regardes Sylvain Chavanel, tu sais, quand il est parti sur le plat aujourd'hui, il a quand même, c'est un sacré rouleur. Pourquoi il fait pas le dernier kilomètre?
Il peut faire le dernier kilomètre, mais je pense que Chavanel savait qu'il avait deux étapes pour aller chercher la gagne, parce que à partir d'après-demain, pas demain, mais à partir d'après-demain, sur les étapes de plat, eh bien, il y a un coureur qui va redevenir compétitif, c'est Cavendish. Et que là, il pourra
pas
sortir.
Se mettre au service de
Cavendish. Et il va obligé de se mettre au service. Oui. Donc là, il avait deux étapes où il pouvait tenter. Et les deux fois, quand on veut trop tenter quelque chose en se disant ça va réussir, eh bien, il manque le petit chouïa qui fait que vous allez à la gagne.
Thierry, ton avis sur Sylvain Chavanel, a-t-il eu raison d'attaquer, même si c'était un peu suicidaire aujourd'hui?
Ben, c'est un peu suicidaire, c'est vrai, parce qu'il y avait 90 gars encore avec lui. Alors, mais il a pris des risques en descente, un très bon descendeur. Moi, je pense que il a joué son va-tout, mais il a rien grillé comme force. Faut pas dire qu'il a grillé les forces pour l'avenir. Ouais. Il tente. C'est vrai que il y avait un léger vent de face. Il y avait beaucoup de gars pour rouler derrière et des sprinteurs. Il aurait fallu que ça attaque bien avant, et c'est vrai que s'il avait été présent dans un groupe avec une descente comme ça sur l'arrivée, mais c'est bon, c'était pour lui. Bon, là, s'il tente pas là, bon, à 10 bandes de l'arrivée, c'est pas grave, il va pas bouffer son énergie pour tout le tour. Et Cyril a raison. De toute façon, il aura peu d'occasion, puisque après, il va être obligé de se mettre au charbon pour son leader.
Très
donc
bien.
Tous les sprints, ça va être, il va en bouffer de l'énergie.
Hein. Et puis on sait que ses coéquipiers ne travaillent jamais pour lui, de toute façon, hein, Sylvain. C'est pour ça qu'il est dans cette équipe belge, ça marche bien pour lui.
Parce qu'il aurait pu en gagner aussi.
C'est vrai qu'il aurait pu en gagner si certains de ses équipiers l'avaient aidé, notamment dans les classiques du mois de mars et du mois d'avril. Très bien. On va s'intéresser dans quelques instants à notre troisième débat. On va parier évidemment sur RMC et puis évoquer ce contre-la-montre par équipe demain dans les rues de Nice. Premier rendez-vous kilométrique. Chronométrique plus exactement de ce Tour de France, et est-ce que la Sky selon vous va d'ores et déjà écraser le général dès demain? On en parle dans un instant, ça tout de suite.
RMC 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour. Christophe Cessieux.
Le dernier quart d'heure de l'intégrale Tour en Corse après 100 ans d'attente. Et oui, le Tour va quitter la Corse tout à l'heure. Les coureurs sont déjà sur la Côte d'Azur ou en train d'atterrir en ce moment, et les suiveurs vont les suivre, c'est leur but, dans quelques heures avec le départ de 6 bateaux à destination de Nice. Il y a 6000 passagers à embarquer, il y a 2000 véhicules à embarquer, ça va être un grand chambardement tout à l'heure dans les ports de Corse à direction de la Côte d'Azur. Tiens, on va parier sur RMC et faire le bilan des paris du jour.
PMU. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Et pour cela, nous appelons notre coteur préféré, j'ai nommé Benji Lamalisse, Benji Ramagé. Salut Benji.
Salut messieurs.
Salut.
Alors Benji, aujourd'hui, on n'est pas passé loin avec Cyril.
Oui,
vraiment, vraiment d'un boyau, d'un demi-boyau. Si tu avais vu la tête de Luc quand il nous a vu battu avec Cyril, il était trop content.
Je m'en doute.
Guérande, est-ce que quelqu'un avait donné Guérande?
Non, à part dans le live betting, Cyril avait bien joué. Évoqué. Puisqu'il avait dit ça va jouer entre Guérande et Sagan. Donc effectivement, ça s'est joué entre Guérande et Sagan. Mais ça vous permet quand même de marquer des points avec Cyril au classement du maillot vert. En revanche, il faut que Bourgui se réveille. C'est le seul dans la Dream Team qui n'a toujours pas de points au classement.
Ah ouais, mais ça c'est normal, c'est tous les ans pareil. Hein Bourgui?
Non.
T'attends la dernière semaine, toi, t'es un grimpeur, toi.
Ah non, je pense que tu fais preuve d'Alzheimer, là, toi aussi. Hein, c'est pas parce que l'an dernier, t'avais le maillot jaune que les autres étaient très très loin.
Non, mais il a eu le maillot jaune, Thierry, l'année dernière, à un moment donné.
Oui,
il l'a eu l'année dernière.
Ouais, sur le prologue.
Et puis après, j'ai eu peur, j'ai eu du mal en te voyant et je t'ai laissé ce beau et.
Terrible maillot jaune, maillot d'or. Alors Benji, les classements de ces paris, toujours Lucho en tête évidemment.
Oui, Lucho qui a toujours le maillot jaune, qui a toujours le maillot vert. Pour l'instant, pas de maillot à pois. Et puis le maillot blanc, on le sait, hein, c'est pour Georges.
Le maillot blanc ad vitam aeternam sur les épaules de Georges. Enfin, un jour, il l'aura plus, hein, parce qu'un jour, il va finir par vieillir lui aussi.
Ouais, mais on sera plus là, nous, on sera mort.
On sera au cimetière, t'as raison, Belgi. Quand il sera vieux, notre ami Georgie. Alors, étape de demain, on va d'abord la présenter avant de voir quels sont les principaux favoris. Enfin, ce ne sont pas des coureurs qui seront favoris demain, ce seront des équipes. Cyril, ce premier rendez-vous chronométrique dans le Tour de France, il y en aura trois. Celui-ci est par équipe dans les rues de Nice, sur la promenade des Anglais. C'est assez plat, hein. On va pas monter dans les Préalpes et dans les Alpes-Maritimes.
Non, on nous a mis un parcours totalement plat avec la promenade des Anglais jusqu'à l'aéroport de Nice. Ensuite, on prend la vallée du Var. La vallée du Var, il n'y a pas de bosse non plus. Ce sont que de grandes lignes droites. Donc les équipes qui seront les plus performantes, eh bien, c'est celles qui auront les plus gros rouleurs, les plus gros bulldozers. Il faudra bien sûr beaucoup de cohésion, de solidarité et puis de technique aussi, parce que ça se joue avec l'aspiration, bien sûr. Et à ce petit jeu-là, bien, il y a quelques équipes quand même qui dominent en permanence.
Alors, moi, je trouve ça bien dommage quand même qu'avec le terrain de jeu qu'il y a dans l'arrière-pays niçois, faire un contre-la-montre complètement plat, on aurait pu s'amuser à aller un peu...
Bah toi, t'écoutais, il faudrait faire tous les jours durs.
Tous les jours de la montre.
Attendez. C'est pas parce que c'est plat que c'est facile, parce que le contre-la-montre par équipe est une des épreuves les plus difficiles, surtout quand vous êtes dans les deux ou trois qui sont le moins bien. Je peux vous dire que c'est une horreur.
Qui baver, hein,
d'ailleurs, Thierry Bourguignon dans les contre-la-montre par équipe, il allait brûler un cierge avant.
Ah oui, Thierry, c'est vrai, c'était pas ton truc.
Non, j'étais pas forcément dans les spécialistes, mais je finissais mon boulot correctement.
C'est-à-dire que tu restais avec tes camarades jusqu'au bout ou tu lâchais au bout de quelques kilomètres?
Oui, non, absolument pas.
Mais
c'est mon premier tour d'ailleurs.
Non, mais ce que je veux dire, Thierry, c'est que tu souffrais énormément.
Mais j'étais pas un spécialiste des chronos.
Voilà. Et ça, voilà, t'es obligé de te battre et de t'accrocher.
Rapidement, rappelle-toi qu'en 91, on a quand même fait deuxième du contre-la-montre par équipe avec l'équipe Castorama.
Non, mais j'ai gagné même un chrono par équipe avec Toshiba à Paris-Nice.
Ouais. Ah bah alors, tu vois,
mémoire sélective. Ce qui compte, c'est la cohésion et l'homogénéité de l'équipe. C'est ça qui est
important. Oui,
la technique.
Façon, la technique, bien sûr.
C'est la technique, la cohésion, et puis c'est...
Faut le travailler.
C'est pas celui qui prenne le plus fort les relais, mais c'est... Celui qui est le plus fort, il doit prendre le plus longtemps possible. Et Thierry Marie, c'est un spécialiste et il le faisait très très bien comme ça.
Alors, mon cher Benji, quels sont les favoris, plutôt les équipes favorites donc demain pour ce contre-la-montre par équipe? J'imagine que la Sky de Chris Froome doit être pas mal, même si il faut quand même le noter, il y a deux blessés au sein de la formation Sky, Geraint Thomas et Yann Stannard qui ont chuté l'autre jour lors de la première étape, qui récupèrent petit à petit, mais ce sont quand même deux énormes rouleurs, hein, Cyril, et avec ces deux-là en moins.
Stannard a récupéré, Geraint Thomas, je suis pas certain qu'il fait de vieux os sur le tour.
Ouais. Donc voilà, ils ont deux éléments un peu fatigués. Benji, malgré tout, ils sont les favoris des coteurs.
Oui, alors juste pour éclaircir un petit peu les choses, il y a trois équipes vraiment qui se détachent. Un favori, c'est Garmin Sharp à 2,80, mais c'est très léger puisque derrière, on retrouve Omega Pharma Quickstep à 2,90 et Sky est à 4,20. Pour info, tu as raison de le préciser, Christophe, ça a fait un petit peu augmenter la cote de Sky puisque Sky était beaucoup plus bas, était à 3,10. Ces petites blessures, vous parliez de cohésion, moi je vais jouer Omega Pharma puisque l'équipe a fait ses preuves en étant championne du monde de la spécialité, donc je vais jouer Omega Pharma Quickstep à 2,90.
Oui, mais par rapport à l'année dernière, il y a eu des blessés, hein. Il y a moins de monde, Cyril, non, chez Omega Pharma.
Chez Omega, il faut pas comparer le championnat du monde de l'an dernier qui était d'ailleurs.
Ils avaient mis tous leurs spécialistes là.
Ils n'ont pas les mêmes coureurs. Ce qui était quand même expérimental, alors que là, on est sur le Tour de France où les équipes sont composées un petit peu différemment parce qu'il faut des
coureurs
mais
complets,
il faut aussi des grimpeurs.
Oui. Donc Benji, tu vas te planter demain. Ça, je te l'annonce tout de suite. T'as pas le droit de changer.
La première fois.
Tu as donné ça.
Benji, t'as mis Omega.
Voilà, Omega. Alpha, bêta, oméga. Thierry, tiens, puisque tu as la parole, toi tu vas nous donner quoi?
Ah, moi je joue tranquille la Sky parce que j'y crois, même avec deux blessés. Ils ont la machine tellement bien rodée, puis même fatigués, ils pourraient donner le meilleur.
D'accord, moi je vais donner la Garmin parce que je pense que les Sky justement sont un peu entamés, donc je pense que Garmin, on a entendu tout à l'heure certains de nos coureurs qui sont très très motivés pour décrocher cette victoire, donc moi je donne la Garmin demain. Cyril?
Bien, moi je vais peut-être vous surprendre, mais je vais aller voir les Radio Schalke. Je pense qu'avec le maillot à défendre, ils vont être surmotivés, et puis j'ai quand même fait quelques petites statistiques. Il faut savoir que l'équipe Radio Schalke, c'est l'équipe qui a le plus de coureurs dans la première, à une seconde, enfin déjà à une seconde de leur propre leader.
Donc ils veulent le maillot jaune et ils peuvent donc, le tenir demain.
Ils étaient 7 à avoir passé toutes les bosses correctement, alors que la Sky, ils sont seulement 4, la BMC 4, Astana 6 et Omega Pharma seulement 2. Donc je pars sur des bases solides avec Radio Schalke, qui a un maillot à défendre et qui me paraît quand même pas mal structuré.
Très bien. Lucho, rapidement.
Bah écoute, moi je vais la jouer
donc
fine.
Pas, hein.
Non, je vais la jouer fine, hein, parce que comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a deux blessés dans l'équipe Sky qu'ils vont pas se mettre à rouler. Hein. Je pense que Froome, il va diriger l'équipe et il va mener de main de maître le tempo de l'équipe, donc je vais jouer la Sky.
Très bien. Qu'est-ce qu'il en dit, Henri-Pierre? Est-ce que la Sky va écraser la concurrence demain? Il nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, Henri-Pierre.
Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Ben écoutez, ça me fait plaisir de vous écouter, de vous entendre à nouveau. Mm-hmm. Oui, demain, je pense que la Sky va tuer le tour, quoi, tout simplement.
Pas donc,
je pense que demain, pas tuer le tour dans le principe où, mais ils vont frapper un grand coup. Et demain, je pense qu'ils vont montrer que c'est eux les patrons. Et après, ben ils géreront, mais je crois qu'ils sont tellement rodés, ils ont tellement envie de ça, de toute manière, et ils vont courir un peu en disant le gros contre-la-montre, ça va nous permettre après de distribuer les cartes et de laisser un peu aux autres le choix de pouvoir faire des trucs. Mais en voulant montrer que c'est dorénavant eux les patrons, ils vont vraiment, vraiment faire. Je pense que les autres équipes dans la deuxième étape de Corse auraient peut-être dû être plus saignants pour essayer peut-être de les contrarier.
De les fatiguer un peu.
Je crois que le Tour, cette année, il peut se gagner, oui, il aurait pu déjà se gagner s'il n'est pas déjà perdu pour les autres ou pour certains, sur l'instinct. Il faut se lâcher à l'instinct. Et si on cherche à mettre en place quelque chose de bien structuré, les Sky seront plus forts de toute manière. Si on leur laisse dans leur certitude,
ben
ils
oui,
seront plus
bien
forts.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi.
Moi, je crois que je vois ça. Ouais.
Voilà, après les magnifiques paysages corses, ce sera pas mal, je vous promets, demain aussi sur la promenade des Anglais.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour.